de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12h de Radio de la Paix dont voici les titres. 227 victimes dont 5 décès, c'est le lourd bilan des pluies diluviennes d'hier à Abidjan selon les sapeurs-pompiers. Nouveau code pénal ivoirien, une coalition d'organisations de la société civile compte saisir le Conseil constitutionnel. Les détails dans cette édition avec Christophe Kwame, président du CIVIS Côte d'Ivoire. Ce sujet sera également abordé dans l'invité de la rédaction par Gilbert Ehouman, secrétaire général de l'URD. Hors de nos frontières, au Niger, la justice lève l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum. Nous aurons une page sport dans ce journal suivi du dossier de l'actualité sur la crise énergétique au Mali proposée par Ghislain Koulibaly. Voici pour l'essentiel. Comme annoncé dans les titres, les pluies du jeudi 13 juin 2024 ont occasionné des montées des eaux et des éboulements dans certaines communes du district d'Abidjan. Le GSPM a déployé son dispositif conformément à son plan d'inondation et a procédé au sauvetage ainsi qu'à la mise en sécurité de plusieurs victimes dans les communes d'Adjamé, Benjarville, Cocody, Yopougon et Abobo. De ces opérations de sauvetage, il ressort ce bilan, 227 victimes avec 250 5 mises en sécurité, 17 évacuations dans les centres hospitaliers, dont 5 décès constatés. Dans un communiqué, la Sodexam est revenue sur la quantité de pluie qui dépasse le seuil des 100 mm de pluie au-dessus des 50 mm de pluie définie. Les services de prévision météorologique avaient annoncé l'arrivée du phénomène et relayé sur les différents canaux de diffusion de la Sodexam. De plus, le dossier justice. Et parlons notamment du code pénal ivoirien. Enfin, en effet, en dehors de l'article 185 de l'alinéa 2 qui suscite les débats depuis quelques jours, un groupe d'acteurs d'organisation de la société civile pointe encore d'autres dispositifs de cette loi qu'elle juge anticonstitutionnelle. Et c'est dans cet ordre d'idées que ces organisations regroupées au sein d'une coalition dénommée Les Libertés ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Écoutons là-dessus les explications de Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, membre de cette coalition. Il a été joint par Soro Adams.
En réalité, l'État de Côte d'Ivoire vient de modifier l'article 185 alinéa 1. Mais le Code pénal de Côte d'Ivoire a ses articles 185, 196, 197, 198, 199 pose problème, selon nous, dans la régression des libertés.
C'est-à-dire
que si ces articles restent tels quels, en Côte d'Ivoire, aucune organisation de la société civile, aucun parti politique, aucune association, même pour défendre la vie chère, ne peut faire des marches, ne peut faire des réunions publiques, ne peut s'exprimer réellement devant les autorités policières. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Côte d'Ivoire, dans la construction de l'état de droit, a mis à disposition un corpus juridique de recours. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de former la coalition dénommée Liberté afin de saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci vérifie réellement, au vu de la Constitution ivoirienne et au vu des lois et de leurs articles, si réellement nous avons raison que ces articles sont anticonstitutionnels. Voilà ce que nous allons faire dans les jours et heures à venir.
Christophe Kwame, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, membre de cette coalition. Amélioration de la gouvernance et de la transparence dans la gestion des biens publics en Côte d'Ivoire, la HABG, haute autorité pour la bonne gouvernance, a organisé ce jeudi un panel en vue de sensibiliser le grand public sur les mesures de protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte. C'était à son siège à la Riviera 4 à Abidjan. Sur les attentes de ce panel, écoutons Maître Assis Emmanuel, membre du conseil de la HABG, représentant le président de l'institution.
de thème « Mesures de protection des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte, acquis et perspectives » est évocateur d'une réalité non négligeable dans la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Le dénonciateur, tout comme le lanceur d'alerte, est une personne qui s'engage de son plein gré et de bonne foi à signaler aux autorités compétentes des faits dont il a connaissance et qui sont susceptibles de constituer des infractions relevant soit du droit commun, soit des dispositions spéciales prévues par la loi. La dénonciation et le témoignage ont une importance capitale dans la lutte contre l'impunité et la criminalité. C'est pourquoi l'ordonnance 23-660 du 20 septembre 2013, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, oblige toute personne à dénoncer les faits de corruption dont il a connaissance sous peine d'emprisonnement. Les dispositifs juridiques en matière de protection des dénonciateurs existent donc bel et bien. L'objectif de ce panel est de nous éclairer davantage sur les dispositions légales en vigueur qui garantissent la protection des dénonciateurs afin de rassurer la population et l'inciter à dénoncer. L'autre objectif est d'ouvrir des pistes de réflexion quant à l'amélioration de nos textes, tenant compte de l'environnement international dans lequel nous sommes acteurs, mais aussi de l'importance du préjudice créé par certaines infractions nouvelles et complexes, la corruption, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, l'enrichissement illicite, la cybercriminalité, etc., etc.
Maître Assi Emmanuel, membre du conseil de la HABJ. Un mot de religion, Hadj 2024, selon certaines informations, des pèlerins en Terre Sainte auraient été refoulés par les autorités saoudiennes. Joint depuis la Mecque où ils se trouvent présentement, le directeur général des cultes de Côte d'Ivoire affirme qu'en ce qui concerne le contingent ivoirien, il n'a aucune information de refoulement de pèlerins par les autorités de l'Arabie Saoudite. Écoutons à ce propos les précisions de Bamba Messamba, directeur général des cultes.
Je dis que pour l'heure, nous sommes venus avec, en tout cas, le contingent étatique et le contingent des opérateurs privés. Pour le moment, nous n'avons aucune information de ce qu'un seul membre de la délégation ivoirienne ait été retourné. Même si cela s'est passé, nous n'avons pas encore l'information. Aucune information à notre niveau nous permet de dire que des Ivoiriens ont été retournés.
Donc, pas d'inquiétude pour le moment.
Pour l'heure, pas d'inquiétude, mais ce qu'il faut signaler est que les autorités saoudiennes ont pris des mesures très draconiennes cette année, à savoir remettre à chaque pèlerin qui foule le sol de la Terre Sainte d'avoir un badge qu'ils ont nommé Loussouk, donc avec un col cuir qui permet donc de dire si tu es un pèlerin, régulièrement inscrit. Si tu es un encadreur, si vous avez un bracelet au poignet, qui permet donc de sélectionner les pèlerins réguliers, des non-réguliers. Certainement qu'il y a eu des refoulements, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pour l'heure aucune information. Et nous sommes en train de nous préparer à envoyer tous nos pèlerins sur le circuit rituel Swadi qui commence par la station de Mina, où les temps sont déjà prêts pour les accueillir.
À l'instant, Bamba Messamba, directeur général des cultes. À l'intérieur du pays, les femmes de Bouna de l'association dénommée Aimons-nous vivants ont fait don de sacs de riz et de pâtes alimentaires à des femmes d'un certain âge, veuves et indigentes, pour les soutenir dans la prise en charge de l'éducation scolaire de leurs enfants orphelins et vulnérables. Les échos de cette action humanitaire avec Jérôme Kouassi de Bouna, notre correspondant dans le Bounkani.
Kwaku Fanta épouse Touré, la présidente, pour ce qui a motivé cette action.
Aider nos mamans veuves et démunies. Parce qu'il y a des mamans, franchement, quand tu rentres dans les foyers, on sent que, en tout cas, les mamans sont dans les besoins. C'est pas facile de perdre ton conjoint, mais ils ont besoin d'aide. Depuis 2021, on fait des dons aux enfants, à de Noël, pour des enfants démunis. Eux, quand il y a des fêtes des mères, on fait des dons aussi aux mamans veuves et démunies. Parce qu'il faut préciser, il y a des mamans veuves qui sont tellement à l'aise, leurs enfants sont là, mais il y a d'autres où ça ne va pas.
Les bénéficiaires ont été reconnaissantes et ont loué le geste salvateur de l'association Aimons-nous vivants.
Kambiri Lucie, Daskelen Dougoumara, Mofore Kerara, Tangbam Bloué, depuis ce an qui est Bounarasayi, Kera, Boutou, Bara, Ora,
Alima Ouattara, Diamanta. Je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour nous. Ça nous a dépassé. On n'a même pas pensé à ça. Mais Dieu merci, ce que vous avez fait pour que Dieu n'ait qu'à faire ça, n'a qu'à tout, beaucoup plus que ça encore. Merci beaucoup.
La présidente Kouakou Fanta épouse Touré a, au nom des membres de l'association et mon nom vivant, invité toute personne physique et morale à imiter leurs gestes en faveur des femmes, veuves et démunies qui ont besoin de soutien.
Nous, notre association, on s'est mise pour s'occuper des veuves et des orphelins. Les mamans, les enfants ont besoin de ça. Tous les cadres, les opérateurs économiques qui sont dans le Bunkani, si vous pouvez faire aussi pour vous aussi, vous pouvez le faire.
Cette association Aimons-nous vivants envisage aussi soutenir des ménages qui ont accepté d'accueillir des demandeurs d'asile avant leur départ sur le site de relocalisation des réfugiés de Timala. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
De Bouna, rendons-nous à Odiéné où Son Excellence Alain Clément Amiezi, évêque de la ville, a procédé le mercredi à la remise d'un important lot de matériel de soudure et de couture à l'Association des personnes en situation d'handicap du district autonome du Dinguélé. Sacerdoce de l'Église, cet acte de charité consiste à indiquer le serviteur de Dieu à rendre autonomes les personnes en situation de handicap.
Les kits sont composés d'un lot de matériel dans lequel il y a des motos, des tricycles. Il y a aussi le matériel complet pour la soudure, parce que comme eux-mêmes, ils veulent faire désormais eux-mêmes donc les fauteuils roulants. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir monter les fauteuils roulants, tout le matériel. Ils ont sollicité aussi des machines à coudre pour les sourds muets. Et donc, nous avons pu avoir disons, une douzaine disons, de machines à coudre. Et comme ça, ils auront disons, un atelier de couture pour ces personnes-là, pour leur apprendre aussi à coudre. Et ils ont voulu aussi, disons, au niveau de l'administration, avoir disons, des fauteuils, des bureaux, tout ça, pour le directeur, et aussi des ordinateurs, des imprimantes. Et donc, tout cela, nous avons pu, grâce à Dieu, procurer tout cela à cette association des handicapés. Donc voici en gros disons que tout le matériel disons que ce matin nous offrons à nos frères vivants disons avec des handicaps dans notre région du Dinguélé. Étant donné que notre église a une option préférentielle pour les pauvres, les handicapés, les malades, aujourd'hui nous sommes contents disons, de pouvoir aider ces personnes parce que notre mission première c'est cela, la charité, être apôtre de la charité auprès de nos frères.
Son Excellence Aimé Alain Mézi, Aimé, évêque du diocèse de Dionné, était au micro de Bakary Touré Labaste, notre correspondant dans la région du Kabadougou. Hors de nos frontières, au Niger, Mohamed Bazoum, président du Niger renversé par un régime militaire en juillet 2023, pourrait prochainement être jugé. La justice de son pays a levé ce vendredi son immunité présidentielle, ouvrant la voie à un procès, ses avocats dénonçant l'avènement de l'arbitraire. La cour ordonne la levée de l'immunité de Bazoum, a déclaré Abdou Dan Galadima, président de la haute juridiction du Niger, créé en novembre 2023 par le régime militaire. Les autorités de Niamey accusent le président renversé de complot d'attentat à la sécurité et à l'autorité de l'État, crime de trahison, fait présumé d'apologie de terrorisme et de financement du terrorisme. Un mot de sport dans cette édition 22e journée de la Ligue 2 en Côte d'Ivoire. Les regards sont tournés vers Korogo où l'US Tchologo accueille l'Africa Sport d'Abidjan ce vendredi. Pour les Verts Rouges, une victoire et c'est la montée en Ligue 1. Et puis en Allemagne, c'est aujourd'hui que démarre l'Euro 2024 en match d'ouverture à Munich. Nous aurons le duel Allemagne-Écosse. Le point avec vous, Didier Blé.
Trois saisons après sa descente en Ligue 2, les Aiglons de l'Africa Sport tiennent une opportunité inouïe pour la montée en Ligue 1. C'est ce vendredi à 15h30 au stade Amadou Gonclibali de Korogo pour le compte de la dernière journée dans le groupe A. Actuellement premier du groupe avec 46 points, une victoire du club Aiglon le propulserait en Ligue 1. Les Aiglons sont à 2 points de Iska, deuxième 44 points. En cas de mauvais résultat de l'Africa, une victoire de Iska lui assurera la montée. De son côté, l'US Tchologo, 11e du classement, joue le maintien. Une victoire garantirait son maintien en Ligue 2 la saison prochaine. Et puis sur le plan international, l'Euro 2024 s'ouvre ce vendredi à l'Allianz Arena de Munich qui accueille le match Allemagne-Écosse. Une rencontre précédée par une cérémonie d'ouverture et parmi les temps forts, l'hommage rendu à Franz Beckenbauer, capitaine victorieux de l'Allemagne au Mondial 1974 et décédé le 8 janvier 2024. Allemagne-Écosse, c'est aujourd'hui à 19h et puis demain, samedi, nous aurons Hongrie-Suisse, Espagne-Croatie Croatie et Italie-Albanie. Le dimanche, Pologne-Pays-Bas à 13h, Serbie-Angleterre à 19h. Et puis la France entre en lice le lundi face à l'Autriche dans le groupe D. La finale de l'Euro, quant à elle, est prévue le 14 juillet 2024.
Place à notre dossier. Le Mali fait face en ce moment à une crise énergétique. À Bamako, les coupures d'électricité peuvent durer toute une journée. Une situation qui affecte énormément les ménages et les activités économiques, dont le secteur artistique. Les espaces culturels et les studios d'enregistrement n'arrivent plus à fonctionner comme avant. Suivons ce dossier de Ghislain Koulibaly.
Au quartier commune 1, Bangori Plateau. Ici se trouve le studio du jeune arrangeur Bargosi. Nous le trouverons en pleine séance d'enregistrement. La climatisation arrêtée, la porte entrouverte. À l'entrée du studio, un petit groupe électrogène tourne à plein régime. Ce moteur assourdissant ne facilite pas les prises de voix et est aussi budgétivore, nous dit Bargosi.
Donc, on est obligé de travailler sans la climatisation. On ouvre la porte, il y a les bruits voilà, de la rue. Donc, quelqu'un va te dire, t'appeler, te dire que dans la musique, là, il y a bruit de moto ouvert comme ça. À chaque deux jours, tu peux mettre 15 000 francs sur l'essence. Or que si tu mets 15 000 francs sur le compteur privé, ça peut faire tous les mois.
De l'autre côté du fleuve Niger, au quartier Bakoji Koroni, nous nous rendons au complexe culturel Blamba, fermé depuis peu après l'endommagement du groupe électrogène. Une situation qui oblige le patron à mettre au chômage plusieurs agents à Alioune Ndiaye.
On est arrivé à investir jusqu'à 800 millions pour pouvoir mettre en place, en droit, le mur d'ici et puis à le rendre progressivement et opérationnel. On était sur un grand programme qu'on avait lancé à l'époque d'un mois et on a été obligé d'arrêter ce programme et de mettre 61 personnes au chômage.
Des situations difficiles qui conduisent à la réflexion. C'est ce que mène l'Institut des hautes études du développement durable, un laboratoire d'idées ayant pour mission d'influencer le débat international sur le développement. Écoutons la directrice Céline Quatre-Barbe.
Il y a des spécificités locales, de territoire, sur les questions de crise, mais il y a aussi des questions ou des problématiques transversales qui dépassent les frontières. Il est donc important et intéressant de pouvoir confronter les discours, confronter les points de vue et parfois se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation, mais que dans le pays voisin, il y a des questions qui se posent similaires et qu'il y a peut-être des solutions ou des approches qui peuvent être partagées.
Une synergie d'action entre opérateurs culturels et les acteurs au développement permettra sans doute d'éclairer et d'anticiper les actions face aux crises.
Dernière articulation de notre journal avec l'invité de la rédaction. Discours sur l'état de la nation par le président de la République Alassane Ouattara. L'Union républicaine et démocratique dit attendre avec impatience et espoir ce rendez-vous du 18 juin prochain. Invité de la rédaction Gilbert Ehouma, secrétaire général de l'URD, donne dans cet entretien une idée des attentes de son parti. Il répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour monsieur le secrétaire général.
Bonjour.
L'actualité politique des prochains jours reste marquée par le discours attendu du chef de l'État le 18 juin prochain face au Parlement de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. De côté de l'URD, quelles seraient vos attentes? Quels seraient vos souhaits?
Alors, il faut dire que c'est une grande tribune. Et lorsque le président se déplace à cette tribune-là, vous comprenez bien que l'attention est très particulière. Donc l'URD en Côte d'Ivoire, nous aurons aussi les yeux rivés vers ce Parlement pour écouter notre président, puisque nous attendons vraiment ce qu'il va nous dire. Donc vous comprenez que c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt que nous attendons ce 18 juin-là, puisqu'il y a des enjeux importants en ce moment. Je vais dire à 16 ou à 17 mois des élections présidentielles, il est vraiment important que nous puissions savoir réellement ce que va dire le président de la République.
Et justement, en ce qui concerne votre parti, l'URD, quelles seraient vos attentes, quels seraient vos souhaits relativement à ce message à la nation via le Parlement de Côte d'Ivoire?
Alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes à un an des élections, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que vraiment tous les problèmes liés à ces élections-là puissent vraiment se régler. Vous êtes censé savoir que nous avons des problèmes au niveau de la CEI, puisque l'opposition dans son entièreté n'est pas d'accord par cette CEI-là qui a été mise en place et que nous avons décrié. Bon, pour nous, c'est l'impasse totale, puisque nous allons résolument vers des élections. Malheureusement, il y a des problèmes qui sont pendants, qui ne sont pas réglés par le pouvoir, et on espère que ce jour-là, le président va quand même avoir une oreille attentive à ce que nous décrions depuis des années, et qui pourra vraiment satisfaire tous les Ivoiriens, pour que vraiment on ait des élections pour une fois paisibles en Côte d'Ivoire, parce que depuis 2000, ou je dirais même depuis le départ du premier président ivoirien, il n'y a jamais eu des élections comme ça paisibles en Côte d'Ivoire, et à chaque fois, ce sont des crises. On espère que pour une fois, le président de la République aura une oreille attentive, comme je le disais là, pour prendre en compte toutes les préoccupations des Ivoiriens, surtout des partis politiques de l'opposition, pour qu'on aille à des élections vraiment inclusives, transparentes. Parce que même si c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement en ce moment, mais il faut dire qu'il y a quand même un peu d'étirement. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien, comme je le disais tantôt, que nous aurons les oreilles et les yeux rivés vers cette date du 18 juin.
Deuxième attente de l'URD après la CEI et des élections paisibles.
Alors, une deuxième attente, oui, c'est que, vous voyez, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale qui ne satisfait pas vraiment la totalité de l'hémicycle, même si mécaniquement le pouvoir est passé en votant cette loi. Alors, sur cette loi, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Vous avez constaté, comme nous, que l'opposition à l'hémicycle n'a pas voté cette loi-là, parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'opinion, vous comprenez qu'il ne doit pas exister naturellement une opposition dans un pays. Donc c'est l'une des attentes vraiment de l'opposition. Il faut que le président de la République ne se considère pas comme le président d'un parti ou d'un camp, mais le président de tous les Ivoiriens.
Et pour vous, que doit-il faire relativement à cette loi?
Alors, bon, malheureusement, l'hémicycle a voté, mais je pense que le président a son pouvoir discrétionnaire. Il a tout le mécanisme juridique, il a tout le mécanisme au niveau de la loi pour revenir cette loi. Sinon, ce ne serait pas normal pour un pays qui se veut démocratique.
Je vous remercie, monsieur Ehoma Gilbert.
C'est plutôt moi qui vous remercie.
Vous écoutiez à l'instant Gilbert Ehoma, secrétaire général de l'URD, qui donnait dans cet entretien une idée des attentes de son parti. Il était l'invité de la rédaction de ce vendredi. Voici qui met fin à cette édition, mais avant le rappel des titres. 227 victimes, dont 5 décès, c'est le lourd bilan des pluies diluviennes d'hier à Abidjan, selon les sapeurs-pompiers. Le nouveau code pénal ivoirien, une coalition d'organisations de la société civile compte saisir le Conseil constitutionnel. Nous avons eu les détails dans cette édition avec Christophe Kwame, président du Civis Côte d'Ivoire. Et puis hors de nos frontières au Niger, la justice lève l'immunité du président déchu Mohamed Bazoum. Merci de nous avoir suivis. À présent, la revue de la presse ivoirienne proposée par Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous.